Bon, bien bonjour, bon matin, comment ça va vous? Bienvenue à ce... Est-ce que tu sais, les amis de la régie, est-ce que c'est enregistré? C'est enregistré. Bonjour vous, qui m'écoutez en différé. C'est une grande joie de vous parler aujourd'hui. Ça va bien? On attend un peu tout le monde là, mais... Le cours débute à 9h, tapant, donc merci à ceux qui sont là à l'heure, bravo. Vous pourrez en sortant savoir que vous êtes apprécié. Donc, bienvenue à ce magnifique premier cours sur le livre de la prière qui est ici, ça. Bon, il est mince le mien, là. Mais faut pas suivre vos apparences. Est-ce que tout le monde a pu se procurer le livre? Non? Vous pouvez aller voir François qui vit Langlois. Merci. Je pense qu'il en a commandé au moins une dizaine, donc ce sera peut-être une bonne chose d'aller à la bouquinerie après. C'est un excellent livre, mais avant de commencer... Non, c'est pour ça que j'ai juste le couvert, je l'avais acheté, puis je l'ai PDFé. Oui, c'est... J'aime inventer des mots. Fait qu'est-ce que vous êtes d'accord que, pour commencer un cours sur la prière, on commence en priant? Qu'en dites-vous? Donc, oui, j'y tiens. Merci, Jésus. Merci de cette puissance mystérieuse qu'est la prière. Merci d'être vivant. Merci même que toi, tu intercèdes pour chacun de nous. Merci, Seigneur Jésus, de ta présence en nous, ici, partout. Je te prie ce matin de nous accompagner dans cette session de cet atelier sur la prière. Permets, Seigneur, que ça nous stimule et que ça nous donne envie de prier. Je te prie pour chacun des enseignants qui auront à se succéder pour donner ce cours, que tu les emplisses de ta grandeur, de ta sagesse et qu'on puisse exposer d'une façon claire toute la beauté qu'il y a derrière la prière. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. C'est quand même bizarre, hein? Non, mais prier. Tu sais, des fois, j'avais vu à un moment donné dans quelqu'un qui a un moqueur. Hein, il y en a des fois des gens qui sont comme ça. Et il disait, coudonc, t'es-tu en train de parler avec ton ami imaginaire? Ben, c'est vrai que vu de l'extérieur, tu sais, les... Comme Élie qui voyait la servante qui priait et qui se faisait aller les lèvres, il disait ah bon ben elle est saoule, elle est en train de babiller là. Ça peut être bizarre de l'extérieur, tu sais, de se mettre à parler comme ça à un Jésus que personne ne voit et que dans le fond on croit bien qu'il nous entend. C'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus rationnel dans un monde scientifique, n'est-ce pas? On a un Augusto aussi qui est un... Et sa copine qui sont deux scientifiques. Effectivement, quand je vois des scientifiques qui viennent à Jésus, c'est toujours un... Yes! Avez-vous remarqué aussi, pour ceux qui prient, j'imagine, tout le monde prie, qui n'a jamais prié ici? Ça se demande. Bon, ben c'est parfait, mais avez-vous remarqué comment des fois c'est un peu bizarre? Mettons que, moi, ça m'est arrivé. Je suis pas mal sûr que c'est arrivé à tout le monde. Que tu n'as pas le temps, tu sais, tu as un désir ou tu as un souhait, tu dis, ah, si ça pouvait arriver, cette chose-là, ou si pouvait se passer ça, ou il arrive quelque chose, puis, man, j'ai même pas eu le temps de prier. Puis Dieu m'a répondu. En fait, il n'y a même pas eu de requête formelle. C'était juste comme quelque part enfoui dans les désirs. Ou d'autres fois... Ça peut faire 30, 35, 40 ans que tu pries pour une chose et que dalle. Rien. C'est tout un défi, quand même. Il y a un défi dans la prière aussi parce que on est à une époque de réseaux sociaux où on captive vraiment notre attention et notre niveau d'attention est beaucoup raccourci, c'est un fait, là. Maintenant, on est habitué à des, je dirais, des morceaux de 3 minutes avec les reels Instagram, ou si vraiment c'est trop long, on peut toujours aller sur les stories qui durent 1 minute et demie à peu près. Ou sinon, ça va juste être un post, puis là, excusez les mots anglicismes, il y en a qui sont en train de compter mes anglicismes présentement. Mais, tu sais, comment on dit, on scroll en français? Oh. Défiler, on défile, on défile, on défile, on défile. Imaginez maintenant quand on parle de prière, il y a le concept de l'ennui qui peut être un grand défi. On s'ennuie, on trouve ça long. Il y en a qui vont trouver que c'est antiproductif. À notre époque de grande productivité, ben, prier, quelque part, il y a un moment donné, il faut arrêter, là, faut s'arrêter. Et quand le monde roule, on a l'impression qu'on manque quelque chose. Il y a même un concept qui est FOMO, là, tu sais, encore en anglais, désolé, mais la peur de manquer quelque chose. Et de l'autre côté, ben, ceux qui passent du temps dans la prière passent souvent pour des illuminés, ou même le mot contemplatif, ce que je suis personnellement, ben, j'ai un passé, là, pour ceux qui connaissent ma vie. Avant ma conversion, j'étais plus franciscain avec les catholiques. Et puis, après, j'ai appris tout le concept de la méditation transcendantale. Donc, tu sais, l'idée de m'arrêter, c'était pas quelque chose d'étranger là, dans mes habitudes. Mais il y en a qui voyaient ça comme quelque chose de presque de la procrastination ou du laisser-aller. Mais personnellement, quand je coach des gens, ça fait beaucoup d'années que je coach des personnes, la première question que je pose, c'est comment ça va avec Jésus? Et dans cette question-là, il y a le sous-entendu. Comment ça va dans ta relation avec Jésus? Parce qu'au bout du compte, la prière, c'est ça. Ça marche par la foi, dans le sens que si tu n'y crois pas, ça n'a aucun sens de prier. Si tu ne crois pas que Jésus est vivant et qu'il t'entend, ben, il y a un centre de counseling. Mais si tu crois que Jésus est vivant, qu'il entend tes prières, qu'il entend tes cris et même tes supplications, qu'il entend tes louanges, bien là, ça donne tout un sens à la prière. La Bible est super claire avec la prière. C'est essentiel pour le chrétien. C'est ce qui nous relie à Dieu. Pour communiquer avec Dieu, vous savez, il y a pas beaucoup d'options. Il y a une option, je dirais, d'attirance, si je pourrais dire ça comme ça. Tu sais, comme la nature. La nature. Hier, on est allé prendre une marche dans notre petit bois, là, pas loin. Puis, la nature nous expose la gloire de Dieu. Mais c'est pas un langage, c'est, tu sais, comme la parole le dit. Mais la parole, elle, est une façon dont Dieu nous parle, par son esprit. Donc, la parole, c'est la façon la plus claire que Dieu peut nous parler. Et la prière, c'est la façon la plus claire dont nous, on peut parler avec Dieu. C'est un dialogue. J'appelais ça les deux P. En fait, c'est dans Gibec qu'on avait commencé ça. Prière et parole, c'est les deux P. Les deux P pour une vie chrétienne épanouie, c'est prière, parole. C'est comme les deux poumons, hein, les deux P, les deux poumons. Bon, j'étais avec Guy Lavoie là, dans le temps, là, fait qu'on essayait de trouver des petites anecdotes. Il y avait une addiction au Pepsi à cette époque-là. Donc, on disait les 3 P, la Trinipé. En tout cas, excusez Guy, vous connaissez Guy Lavoie, là, ceux qui connaissent Guy. On avait fait qu'imaginer, moi qui aime faire des jeux de mots, c'était quelque chose. Oui, ce livre, La prière, s'inspire des réflexions de Tim Keller. C'est pas un livre qui va nous dire tout, et c'est lui-même qui le dit, là. C'est pas un livre pour nous dire tout sur la prière, mais c'est un livre pour nous stimuler à prier. Donc, l'objectif, j'espère, après ce cours et après les autres qui vont suivre, c'est que vous allez avoir le goût de prendre du temps avec Jésus. Donc, au programme ce matin, premièrement, on va regarder qui est Tim Keller. Ben oui, c'est l'auteur, on va en parler un petit peu. On va regarder pourquoi il a écrit son livre. C'est une introduction aujourd'hui. Donc, c'est les pages 1 à 7, ceux qui aiment suivre, là, 1 à 7 du livre. On va voir les deux grands courants. Parce qu'il y a deux grands courants de prière en général, et c'est de ce dont M. Keller parle. Comment les psaumes viennent réconcilier ces deux grands courants. Puis j'aimerais ensuite, à la fin, qu'on jase un peu là, sur la prière, quelques réflexions sur la prière. Ça vous va? Yeah? Oui. Bon, oui, élève. Qui est Tim Keller? Ben, Tim Keller est un pasteur aux États-Unis. C'est un théologien, un apologiste, chrétien évangélique, né le 23 septembre 1950 et il est décédé le 19 mai 2023. Maintenant, je dirais que les obstacles à la prière n'ont plus de sens pour lui. Il est en communion directe avec Jésus. C'est pas pire, ça. Hein? Ce gars-là est le fondateur d'une église à New York qui s'appelle le Redeemer Presbyterian Church. C'est un presbytérien. Il a écrit de nombreux livres et si vous voulez en avoir un échantillon, allez sur le site Internet de Publication chrétienne et faites une recherche Timothée Keller et vous allez voir que juste en français, il y en a déjà énormément. Et il est un des piliers fondateurs du Gospel Coalition. C'est un grand homme de Dieu, un homme qui a beaucoup influencé notre vision de la théologie aujourd'hui. Et ce gars-là lui-même est influencé par les pères de l'Église, c'est-à-dire Augustin, Luther, Calvin, qui, eux, mettaient l'accent sur la prière comme un dialogue intime et constant avec Dieu. Fait que ça va nous aider à saisir un peu ce qui nous attend dans cette lecture-là. Pancréas, je crois, cancer. Pardon? Oui, c'est ça. Comme il était un pasteur presbytérien, il était dans un monde où il y a une liturgie très, 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 très claire, très réformée. Cet homme croyait profondément à la souveraineté de Dieu et à la providence de Dieu, de la nécessité de la grâce. Donc, la prière, pour lui, était un acte de grâce. Personne ne mérite de rencontrer Dieu. Personne ne mérite de s'approcher de Dieu seulement que par la grâce et parce que Jésus a fait sur la croix. C'est l'initiative divine et une reconnaissance de notre dépendance envers Dieu. Donc, principe de prière de Keller, premièrement, centralité de l'Écriture. Keller encourage les chrétiens à utiliser la Bible comme guide pour ta prière. Une prière structurée, c'est-à-dire adoration, confession, reconnaissance, supplication. Prendre le temps. Une prière contemplative aussi. Keller était dans cette traque-là, mais il croyait aussi à l'équilibre, c'est-à-dire de prendre le temps de se concentrer sur la présence de Dieu, d'écouter sa voix et surtout l'honnêteté. Être honnête avec Dieu dans la prière en exprimant leurs doutes, leurs peurs, leurs luttes, leurs joies. C'est un homme d'authenticité, Tim Keller. C'était un dialogue essentiel avec Dieu. C'est quotidien pour Tim Keller, malgré le fait qu'il y avait une liturgie très solide dans les cultes. Pour lui, la prière n'était pas seulement le dimanche matin. La prière était un acte de tous les jours, tous les moments. Et il encourage les chrétiens à persévérer dans la prière, même quand tu n'as pas de réponse ou que tu as l'impression que, ben, un matin, je ne le filais pas. On continue, Ça va? On continue avec le besoin d'un livre sur la prière. Pourquoi Tim Keller a écrit ce livre-là? Ce livre-là a été écrit parce que selon lui, et c'est une vérité, il y avait un manque de ressources contemporaines et complètes. Le mot contemporain, complet, est important. Je vais lire une citation que lui-même met dans son introduction. Il y a quelques années, je me suis rendu compte que si quelqu'un voulait comprendre et mettre en pratique la prière chrétienne, je n'avais aucun ouvrage de référence à offrir en tant que pasteur. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas de livre de qualité sur le sujet. Beaucoup d'œuvres écrites antérieurement sont infiniment plus sages et profondes que ce que je serais en mesure de publier. Les meilleures ressources de la prière sont déjà parues. Selon lui, le problème, c'est qu'il y avait un besoin, parce que malgré les nombreuses ressources sur le sujet, il y en a qui abordaient la prière sur un volet théologique, c'est vraiment par rapport à soit une théologie pratique, théologie biblique, et d'autres l'abordaient avec un angle méthodologique, c'est-à-dire toutes les façons de prier et tout ça. Bon, il y avait des livres où c'était plus des témoignages d'hommes ou de femmes de prière, mais un livre qui allait dans toutes ces options à la fois, il n'y en avait pas. Un autre point aussi pourquoi le livre a été écrit, c'est que il y a beaucoup de livres qui ont été écrits au siècle dernier, tout ça dans une autre façon de penser, une autre façon de voir la vie. Il n'y avait pas d'Internet, pas de téléphone, pas de télévision, pas de TikTok à cette époque-là. Donc, les réactions, les réalités étaient totalement différentes. On avait besoin d'un livre qui s'adaptait au monde contemporain pour les lecteurs d'aujourd'hui. À travers ce livre-là, Tim Keller nous donne son témoignage personnel par rapport à sa vie de prière et son expérimentation. Et surtout, c'est une question d'application pratique. Comme je le disais tantôt, le but, ce n'est pas de nous remplir le coco de choses sur la prière. Le but, c'est de nous donner le goût de prier. Le verset clé pour le livre, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. » Hébreux 4:16. Donc, c'est une invitation à une relation intime avec Dieu. À date, ça va? Pas de boubou, pas de surprise, peut-être. Dans qui était Tim Keller? Ah, je ne savais pas. Mais on continue? Et c'est une réalité, là, ce qu'on voit là. Il y a deux grands courants, pas seulement dans la prière, mais même dans le monde évangélique, il y a deux grands courants. D'un côté, évidemment, c'est des divergences qui engagent souvent des débats. C'est des divergences qui des fois, vont même créer une espèce de mur, presque une séparation entre les deux écoles de pensée. D'un côté, t'as la prière centrée sur la communion, sur la relation, sur l'expérience de Dieu, c'est-à-dire plus contemplative. Comment on vit ça? Bien, tu recherches l'amour de Dieu. Quand tu prends du temps avec lui, tu cherches l'unité d'être en lui, la paix, le repos. Il y a beaucoup de ressentis de Dieu à travers le côté de la prière centrée sur la communion. Dans ce type de prière-là, l'adoration et la contemplation sont des éléments clés. On va aller même jusqu'au mysticisme. Si on commence à tirer l'élastique de ce côté-là, ça va aller jusqu'à être plus mystique, des fois plus imaginatif, on va dire. Mais l'idée, c'est qu'on insiste sur l'immanence. Immanence, ça veut dire que Dieu est à l'intérieur de moi. Je le vis, je le sens, je le sais, il est là. Et quand on est chrétien, bien, c'est évident que Christ en nous, l'espérance de la gloire, il y a une réalité, là. Il y a le Saint-Esprit qui nous habite et qui est à l'intérieur de nous. Donc, c'est pas juste une affaire d'extérieur, mais c'est vraiment à l'intérieur. Donc, c'est pas fou, là. C'est comme essayer de se fondre avec Dieu. C'est une façon de faire un avec lui. C'est la prière centrée sur la communion. De l'autre côté, comment il l'exprime, il dit « la prière centrée sur le royaume ». C'est l'idée du combat dans la prière. C'est un combat où on invoque le nom de Dieu pour qu'il rétablisse son royaume. Ça va être la présence de Dieu n'est pas toujours nécessairement perceptible, mais ce n'est pas important, ça. Ce qui est important, c'est qu'on ait des soldats dans la prière. Dieu est notre grand général et on y fait état de ce qui se passe. Et là, Dieu, on attend l'approvisionnement en armes et on va se battre contre les flammes, les traits enflammés de l'ennemi. C'est des cris passionnés, des gémissements, des plaintes, des supplications. On insiste sur la transcendance de Dieu. Donc, immanence à l'intérieur. transcendance, c'est Dieu grand, Dieu tout-puissant, qui est à l'extérieur de nous. Il est saint et glorieux. Dans sa grande providence, on s'attend à lui. Donc, c'est vu comme une œuvre de Dieu dans l'homme, où l'homme devient un soldat de Dieu, et on combat dans la prière. Voyez-vous, les deux grands mouvements, là, c'est déjà assez intéressant. Fait que d'un côté où on est des soldats de la prière, puis de l'autre côté, ben, on est des expérimenteux de Dieu. Et longtemps, effectivement, et même aujourd'hui, on a cette divergence-là. Bon, pourquoi? Ben, je pense que je pense pas, là. Je ne fais que transmettre. Mais M. Keller, ben, je pense pareil comme lui. Il parle d'expérience personnelle. C'est clair que, comme moi, ben oui, je suis plus contemplatif. C'est sûr que pour moi, l'adoration, j'ai un penchant vers. J'étais content quand j'ai appris que Tim Keller avait aussi un penchant plus vers. Je me disais, ah, OK, je pensais que tu étais plus carré que ça. Mais non, c'est pas nécessairement négatif. Un comme l'autre n'est pas négatif, ça dépend de ton expérience personnelle. Souvent, ton expérience concrète va t'amener dans une conception de la prière, soit plus contemplative, expérientielle, soit plus combative. Ça dépend comment t'es, ça dépend de ta personnalité, ça dépend de ton expérience personnelle, mais il y a aussi des différences théologiques. On a, dans notre monde évangélique moderne, deux grands mouvements qui dessinent très bien les deux grandes différences de la prière. Tu as le mouvement charismatique, d'un côté, qui vit beaucoup sur l'expérience du Saint-Esprit, avec une immanence de Dieu, et tu as le mouvement réformé baptiste, que nous sommes, qui vise beaucoup plus sur la transcendance de Dieu, jusqu'à la liturgie, et donc, nous, on s'associe plus avec le combattant de la prière que l'expérience, tu sais. Mais le problème, c'est quand on se met à se juger ou se mépriser parce que, ah, ben ça, c'est juste des émotions. Puis là, ben des fois, j'entends de l'autre bord, ben vous autres, vous êtes tellement ces détails qu'à un moment donné, on se perd de vue là-dedans, là, puis on a l'impression que, je dirais même aujourd'hui, on l'a vu un peu dans le temps de la COVID, comment le fait de centraliser un discours, ça peut être presque un piège, parce qu'à un moment donné, tu as l'impression que tu es tout seul dans ton affaire, puis que les autres ont... Toi, tu as raison, les autres ont tort. Puis dans ce domaine-là, ben c'est pas ça du tout. La conception même de la prière, et c'est ce que Mr. Keller nous amène, c'est pas un ou l'autre, c'est pas un choix à faire, c'est pas un contre l'autre, c'est un et l'autre. Il faut voir ça comme un tout, les deux sont connectés, on doit avoir une relation personnelle et intime. Jésus nous appelle ses amis, là. C'est relationnel, là. Il veut que notre joie soit parfaite, qu'on ait une vie abondante, donc il y a quelque chose de très mystique et expérientiel dans la prière, mais c'est pas que ça. Hein, il nous demande, il nous incite, il nous exhorte à nous approcher de lui, faire connaître tous nos besoins. Et la Bible insiste aussi sur l'idée du combat dans la prière. Donc, prier pour les chrétiens malades, les frères qui sont persécutés, prier les uns pour les autres, c'est le combat que même dans le Notre Père qui es aux cieux, ça commence par quelque chose de très expérientiel. Papa au ciel, ouh! Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Mais donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses. L'équilibre, tout est toujours une question d'équilibre dans ces choses-là. Les psaumes sont intéressants dans ce domaine-là. On ne pourra pas lire tous les passages. Mais vous avez le petit document? Tout le monde a eu son petit document en entrant ici? C'est bon? Parfait. Est-ce qu'il y en a qui n'en ont pas eu? Est-ce que vous en voulez? Est-ce que vous voulez me... Est-ce qu'on a d'autres copies, les amis? On a quelqu'un ici qui n'a pas ses feuilles. Levez votre main, faites-nous un discours. Vous pouvez faire une prière à Yannick. Donc, poursuivre, ça va super bien dans l'idée de, par exemple, les psaumes sont l'exemple fantastique où on voit cette espèce d'équilibre entre la prière centrée sur la communion puis la prière centrée sur le royaume. Par exemple, prière centrée sur la communion, je les ai ici, psaume 27, verset 4. « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, c'est d'habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. » Le désir de David dans ce passage-là, dans ce psaume-là, c'est de contempler la beauté de Dieu. C'est très contemplatif. De connaître sa présence. L'accent est mis sur l'admiration et de la communion avec Dieu, beaucoup plus que sur les demandes. On parle de son désir. C'est très contemplatif. Psaume 63, les versets 1 à 4. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta grâce vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. » Évidemment, ici, on voit cette soif intense pour Dieu, ce désir de le contempler, de voir sa puissance et sa gloire dans le sanctuaire. C'est encore une fois où on met en avant l'importance de la relation avec Dieu, avec sa grâce. Psaume 84. Dans le psaume 84, on ne l'a pas écrit parce que c'est un gros psaume. En passant, durant la semaine, pour pouvoir avoir une étude plus approfondie, je vous inviterai à relire les notes, puis relire les passages bibliques, et de demander à Dieu de vous parler. Chacun des passages nous amène dans un volet de la prière, et comme le but, c'est de plus prier, je dirais entre guillemets « mieux prier », c'est un peu péjoratif, mais quand même. Psaume 84, « Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées, mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel, mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur, immanence, hein, des chemins tout tracés. » C'est une profonde communion avec Dieu dans l'adoration qui demande de résider même dans la maison de Dieu. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. C'est le psaume 84, le psaume 131, verset 2. Psaume 131, verset 2. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enve ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. C'est beau. C'est des belles images qui nous amènent justement dans la contemplation spirituelle profonde, cette paix intérieure qu'on trouve en Dieu. Psaume 146 à 150, évidemment, on ne les lira pas, là, ça fait beaucoup, mais c'est un long Alléluia à Dieu qui nous amène vraiment vers l'adoration et la reconnaissance envers Dieu. Bon, il y a plein de psaumes, et là, on fait juste gratter la surface, il y en a 150 psaumes, là, mais il y a beaucoup de psaumes, David et Asaph et ceux qui ont écrit le livre des psaumes nous amènent dans ce monde d'immanence, dans ce monde de prière centrée sur la communion. Donc, c'est biblique. Si vous posez la question, c'est-tu biblique? Oui, c'est biblique. Il y a l'autre côté, dans l'établissement du royaume, il y a des psaumes où le psalmiste crie à Dieu pour qu'il exerce son pouvoir dans le monde, où l'absence de Dieu est exprimée. Le psaume 10 commence. « Pourquoi, ô Dieu, te tiens-tu loin? Pourquoi te caches-tu au jour de la détresse? Puis il se termine avec une demande de justice sur la terre, tout en s'en remettant à la sagesse et au temps de Dieu. D'autres psaumes de lamentation, comme les psaumes 13, 39, 42, 43, 88, expriment une lutte intense dans la prière. Devant des difficultés, il demande l'intervention de Dieu. Psaume 67, « Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sa face sur nous, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Ce souhait-là que Dieu soit connu de tous les peuples. » Psaume 67, c'est le combat, la mission, on est en plein dedans. Psaume 72, « Une prière pour le roi ». Qui dépasse la personne du roi terrestre, évidemment, c'est une prière qui appelle le règne de la justice, que le roi dirige son univers. C'est une prière qui nous amène à dire, « Wow, Seigneur, dirige tout. » Psaume 82, un psaume qui dénonce l'injustice de certains dirigeants, et en même temps, il invoque Dieu, le juge suprême, exerce son jugement sur la terre afin d'établir ce règne de justice. On parle du psaume 96, qui appelle toutes les nations à chanter à l'Éternel, annoncer son salut. Le psaume 98, qui invite tous les habitants de la terre à se réjouir devant l'Éternel, car il vient pour juger le monde avec justice. On est encore dans l'invocation de la justice de Dieu. Et le psaume 110, qui célèbre le roi prêtre qui siégera à la droite de Dieu et exercera la domination sur ses ennemis. Établissement du royaume de Dieu, combat et supplication. Ces psaumes nous montrent que, finalement, que ce soit pour communion ou que ce soit pour le combat, l'établissement du royaume, les deux sont dans les psaumes. Les deux sont bibliques. Les deux sont justifiés et justifiables. La prière est un moyen d'exprimer à Dieu nos désirs de voir le règne de Dieu se manifester pleinement. Et il y a plus encore, quand on regarde les gémissements des prophètes, pas juste dans les psaumes, là, il y a des prières qui sont dans la Bible, qui sont aussi soit une transcendance ou une immanence de Dieu. Les intercessions d'Abraham pour Sodome et Gomorre, où Dieu négocie et il intercède en faveur de Dieu pour que Dieu ne détruise pas la ville. C'est carrément une demande de justice. Dans le livre des Actes, les disciples se retrouvent souvent pour prier, pour libérer un frère ou pour qu'on puisse avoir plus d'assurance pour annoncer la parole de Dieu. C'est encore le combat, le combat. Romains 15, 30, « Vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en priant Dieu pour moi. » C'est évidemment encore là, la lutte, le combat dans la prière. Êtes-vous convaincu? Êtes-vous convaincu en passant? Je suis curieux. Qui est plus immanence ici? Bon, moi. Qui est plus transcendance? Puis les autres, c'est pas clair? Les deux? Qui est les deux? Ouais, bon, on parle des convertis, c'est bon ça. Bien, c'est la réalité de la prière. Donc, je suis content de voir qu'ici, il y a un bel équilibre. Je pense que dans notre nature, dans notre théologie, dépendant qui on est, comme on l'a vu tantôt, l'expérience personnelle, la théologie, on va être toujours un petit peu plus d'un bord ou de l'autre. C'est pas ce qui est important, c'est de réaliser que les deux sont un équilibre dans notre vie de prière. Et que les deux sont bibliques, possibles, demandés, réalisables et même désirés par Dieu lui-même. Dieu veut qu'on s'approche de lui et qu'on l'adore, ouais, oui, qu'on soit émerveillé complètement par lui. Mais Dieu veut aussi qu'on lui apporte des prières, des supplications, qu'on lui amène tous nos fardeaux devant lui, qu'on prie les uns pour les autres, qu'on prie pour les chrétiens persécutés. C'est les deux, on ne peut pas séparer un et l'autre. C'est les deux font un, et ça s'appelle la prière. C'est la prière. Comprenez? Est-ce que vous avez des questions sur ces deux... dualité. En tout cas, ces deux complémentarités, je pourrais dire. Oui, M. Toby. hors focus de ces deux catégories? Est-ce qu'il y a une sorte de prière qui serait en dehors de ces deux catégories? Je réfléchis, là. Je me fais aller le Grudem dans ma tête. Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. D'un côté, c'est vraiment tout ce qui est tout ce qu'on apporte devant Dieu. Et de l'autre côté, c'est vraiment tout ce qu'on perçoit de Dieu. Après, il ne reste plus grand-chose. Peut-être que. Ouais, quand on va être au ciel, je réfléchis. Là. Justement, on arrive dans les réflexions sur la prière. Ouais, quand on va être au ciel, on a une petite image. Hein? Il y a l'Apocalypse qui nous en montre un petit bout. Évidemment, c'est intéressant parce que avant le nouveau ciel, la nouvelle terre, on voit que même au ciel, il y a des prières où on demande à Dieu de ramener sa justice. On voit aussi beaucoup de prières qui sont des prières d'exaltation et d'adoration. Fait que même au ciel, il y a cette complémentarité-là de la prière. Après, ben, c'est sûr que là, la justice va être parfaite. Donc, ça risque d'être une transcendance et une immanence, je dirais, réalisée. Il y a plein de choses par rapport à la prière. Là, on est rendu à la dernière section aujourd'hui. Oui, quand il parle de souffrir inexprimable, c'est dans Romains. Il parle quand on fait des pétitions à Dieu, là, des requêtes. Il dit parce qu'on ne sait pas toujours ce qui convient de demander. Quand même mystérieux un peu, les fameux souffrir inexprimables. Les charismatiques des premières époques pensaient que c'était de parler en langue. Finalement, c'est pas vraiment ce que le texte dit. Là. Le texte nous amène surtout à. C'est-à-dire que ça peut arriver que l'Esprit prie en nous et que lui va même intercéder. Il ne faut pas oublier que Jésus au ciel intercède pour nous. Fait qu'il y a comme une dynamique de la prière et ça fait partie justement de ce qui se passe présentement. On est très ignorant. Désolé pour ce qui se passe, ceux qui se pensaient brillant et intelligent dans la prière. La réalité, c'est que c'est un grand mystère, la prière. Imaginez, là, une discussion avec Dieu qui transcende le temps et l'espace. C'est quand même pas rien. Paul dit, ma prière à Dieu, c'est qu'il soit sauvé. Paul avait une longueur d'avance sur moi, en tout cas, là. une longue longueur. Tu sais, quand tu as passé 3 ans en tête-à-tête avec Jésus, c'est quand même pas pire comme coaching. Donc, il était vraiment connaissant. Il dit, et là, il dit, ma prière pour mon peuple, c'est qu'il soit sauvé. Là, il y a quelque part que Dieu, lui, qui est littéralement hors du temps, là, un jour pour lui est comme 1000 ans. Nous, on vit le temps à la seconde parce qu'on sait qu'on va mourir un jour. On est né à un moment donné, puis il y aura une fin, probablement. Fait qu'on vit le temps comme une fatalité qui se déroule au-dessous de nous, comme un tapis roulant pratiquement. Mais Paul demandait le salut. Ouais, on peut demander le salut. Mais ça devient un peu intéressant, cette requête-là. Cette requête-là est intéressante par rapport à la providence de Dieu. Si vous avez fait le cours providence, vous avez vu que Dieu a des élus, des deux bords. Hein? Des élus qui vont aller avec lui et des élus qui n'iront pas avec lui. Donc, de prier pour le salut de quelqu'un, ce n'est pas de forcer le bras de Dieu à ce qu'il change d'idée. Parce que Dieu, dans le passé éternel, avait déjà entendu ta prière. Comme Jésus dit, il dit, ça ne sert à rien de multiplier les mots là, devant Dieu. Dieu sait déjà tout ce qu'on va dire avant même qu'on l'ait exprimé. Donc, Dieu, quand il dit ça, ce n'est pas que Dieu le saisit dans le moment présent ou juste 5 secondes avant. Dieu le sait dans l'éternité passée. Et l'éternité passée, là, c'est quelque chose. Très difficile à concevoir. C'est très philosophique, là. Imaginez, là, un pas de début, là. c'est de la grosse gymnastique dans le coco, là. Un pas de début, mais dans ce pas de début-là, Dieu entendait déjà ta requête. Et il en tient compte dans son plan parfait. Bon. c'est quand même mystérieux. C'est quand même quelque chose. Et c'est quand même à ne pas prendre à la légère par rapport à ce qu'on dit comme la puissance de la prière. Imaginez le privilège qu'on a. Imaginez le privilège qu'on a versus ce qu'il y avait avant Jésus. Je sais pas, tu sais, imaginez avant Jésus quand on priait dans une transcendance complète. C'est-à-dire que Dieu était à l'extérieur, dans sa grande justice, et on priait pour qu'il nous entende. Il y avait une part d'incertitude là-dedans, hein? Ne me retire pas ton esprit et tout ça. Et là, on arrive dans un monde où Christ nous habite, où l'esprit intercède par des soupirs inexprimables, où le voile a été déchiré, on a accès auprès du Père librement. Les passages du Nouveau Testament sont clairs là-dessus. C'est une révolution. C'est une immense révolution, mais aussi un immense privilège qu'on a. La prière, c'est notre privilège. Et de s'en passer, c'est un grand signe de manque de maturité. Je vous invite tantôt, on va parler de spiritualité pendant la prédication. Et effectivement, de ne pas mettre la prière à l'avant dans nos habitudes de vie, c'est comme si tu ne comprenais pas l'ampleur du privilège qu'on a aujourd'hui de pouvoir nous adresser à Dieu, non seulement pour aller chercher le réconfort, mais aussi aller chercher le secours, tu sais, dans cette espèce d'équilibre qu'il y a. Que ce soit par de la confession, la louange. On a fait un moment donné, Yannick a prêché sur l'école de la prière ou l'heure qui change le monde. Et ce qui est intéressant dans ce petit livre, c'est justement de montrer les différents volets de la prière et de ne pas s'en tenir juste à une liste d'épicerie devant Dieu, mais des fois de prendre il y a même le silence, hein, et dans une des façons de prier. Parce qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Pour moi qui le dis, je cite un verset. Et oui, c'est varié parce que c'est relationnel. C'est relationnel. Nous, de notre côté, où on est souvent un peu, on se voit un peu comme des soldats, on oublie, je dis de notre côté réformé, là, autant que l'autre bord, ça peut devenir tellement émotionnel. Dans les deux côtés, il y a des plus et il y a des moins. Mais nous, je dirais de notre côté à nous, c'est qu'on oublie à un moment donné qu'on est en relation. Je l'ai dit souvent, je ne me verrais pas arriver avec ma femme puis avec une liste de choses que je voudrais ou que je m'attendais. Là, tu sais, une liste comme ça, quand on communique, parce que c'est relationnel, ben, il peut y avoir des silences, il peut y avoir des moments où que je t'aime puis « T'es le meilleur Jésus au monde » et puis tout ça, tu sais. Je ne dis pas ça à ma femme, là, je dis ça à Jésus. Mais c'est pour dire que quand c'est relationnel, ça change la teneur du discours. Comprenez? Enfin, je dirais que ce soit par l'adoration, la confession, les actions de grâce, la supplication, l'intercession, je vous invite à expérimenter la prière. Je vous invite à intégrer toutes ces dimensions-là et durant la semaine, c'est le fun de réfléchir à ce qu'on a vu dans notre cours, parce que le but de la prière, c'est d'établir une relation réelle et personnelle avec Dieu. C'est ce que M. Keller dit et c'est ce que je crois profondément. C'est important de persévérer. Des fois, c'est nos émotions. Tu sais, quand je prie puis que je ne sens pas la présence de Dieu, je sais que ce n'est pas parce qu'il n'est pas là. Tu comprends? Il est là. C'est que, bon, pour toutes sortes de raisons, mon ressenti, mes craintes, mes peurs et tout ce que tu voudras, font en sorte que je ne le ressens pas. Mais est-ce que ça doit m'empêcher de prier? C'est comme, tu sais, le coup de foudre. Puis c'est pas parce que le coup de foudre n'est pas à tous les jours que là, il faut que tu dises, « Ah ben ma femme n'existe plus. » Pas comme ça que ça fonctionne. Avec Dieu, c'est pareil. L'importance de la persévérance. Il y a une citation de M. Forsyth qui disait « Priez jusqu'à être d'humeur. » Et j'aime George Muller dans sa biographie où lui-même dit, bon, C'était un homme de prière, priait beaucoup. Mais lui, il commençait toujours par sa lecture de la Bible, se laissait inonder par la parole de Dieu, jusqu'à ce qu'il y ait ce point d'assurance. Hein, un moment où tu dis, OK, là, je sais que je suis dans sa présence. Mais la parole est importante dans notre vie de prière. Je vous l'ai dit au début, les deux poumons, c'est quoi? La parole et la prière. La parole, c'est comment Dieu nous parle. On doit avoir ce cœur disponible de dire, oui, Seigneur, parle-nous. L'Esprit m'habite. L'Esprit qui a inspiré cette parole-là, hein? C'est quand même quelque chose, un autre grand privilège qu'on a, d'en avoir une copie imprimée chez nous en plein de versions, là. Et ça peut être dans ton téléphone aussi, là. C'est comme tu veux. Mais mets-toi un mode de concentration pour ne pas commencer à se promener, puis rester vraiment focus. Puis tu laisses Dieu te parler à travers sa parole. J'encourage toujours une lecture systématique, un plan biblique, pour justement, je te dis, ça fait, j'ai donné ma vie à Jésus à 20 ans, ça fait 40 ans. C'était un point d'honneur dès la première année, c'est M. Mercier qui m'a craqué au début. Donc, j'ai commencé tout de suite en me disant, OK, d'un couvert à l'autre en un an. D'un couvert à l'autre en un an. Ça fait au moins 40 fois que je le lis. Mais savez-vous quoi? Des fois, j'amène aux gars dans nos rencontres, écoute, aujourd'hui, je lisais dans l'hébreu et ça m'a fessé. Dieu continue à fesser mon cœur de bonne façon. Des fois, ça fait plus mal. Ça pince un petit peu. Mais à travers sa parole, il me parle. Et là, savez-vous qu'est-ce que ça fait? Ce que ça provoque? Ça provoque un temps de prière. Ça peut être la louange, ça peut être l'intercession, ça peut être la confession, ça peut être tout ce qui se passe dans mon cœur. Là, je sais que Dieu est là, et non pas que je ne le savais pas avant, mais la vie étant ce qu'elle est, puis nous étant charnels comme on est, des fois, on a un petit firewall, pour ceux qui connaissent les termes d'informatique, qui empêchent des fois l'Esprit de nous parler. Mais là, ça devient une vraie épiphanie. Je suis heureux, ça m'arrive. Tout le temps. C'est ce que George Muller faisait. Il ouvrait sa parole jusqu'à ce qu'il y ait cette assurance que Dieu est là. Je vous encourage à faire la même chose. John Piper a dit il n'y a pas longtemps qu'il était reconnaissant envers les réseaux sociaux. Il dit oui. Il dit, je suis heureux. Je suis content pour les réseaux sociaux. C'est la preuve que tout le monde a du temps pour prier. Il aime bien John Piper. Fait compris? Est-ce qu'il y en a deux ou trois personnes qui aimeraient prier? N'oubliez pas que c'est un privilège. Fait que quand on est en groupe de même, là, personne ne va vous juger en fonction des mots que vous utilisez. Là. On parle avec Jésus. Non, mais j'ai vu ça souvent quand on est en groupe. Là on n'ose pas, on est gêné, on est timide. Mais là, tu as l'honneur et la joie et le privilège d'aller devant Dieu au nom de tous et d'amener à Dieu des requêtes. Et là, tout le monde dit « Amen ». C'est vraiment excitant. Il faut le voir de cet angle-là. Ils n'ont pas « qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? » Ils ne diront rien. Puis s'il y en a un qui dit quelque chose, venez me voir après. Fait qu'on va prier. Je vous invite à prier. Vous voulez prier? T'aimes ça? Parce que la prière comme un voyage, c'est un apprentissage. Tu sais, si je pars de Québec puis je m'en vais jusqu'à Miami, je vais voir toutes sortes de paysages, je vais voir toutes sortes de villes, je vais passer à travers toutes sortes de sinuosités dans mon chemin, si je vais en auto, si je vais à pied, ça va être d'autres choses. Et bien, peu importe la façon dont tu y vas, la prière, c'est un voyage où on a un paquet d'expériences qui nous attendent. Mais savez-vous qu'est-ce qui est le plus important dans un voyage? C'est de partir. Sinon, ce n'est pas un voyage, c'est juste un rêve. Fait que c'est pour ça qu'on va commencer en priant. On va prier. Je vous invite à prier. Merci Jésus pour ta présence. C'est une merveille. Aide-nous à te contempler et à combattre. Seigneur, apprends-nous à prier, comme les disciples t'ont demandé ça. Apprends-nous à prier. C'est une belle question qui sous-entend qu'on a besoin d'apprendre, qu'on a besoin de toi pour apprendre à prier. Toi qui es en connexion directe avec le Père maintenant, on te prie de nous instruire, de nous approfondir la beauté de la prière, de nous motiver, de nous permettre d'avoir la volonté de mettre nos priorités pour passer du temps avec toi, que quand on va être avec toi dans ta présence un jour, notre surprise soit minime, parce qu'on va avoir passé tellement de temps avec toi sur la terre qu'on va avoir cette habitude de ta présence. Merci Jésus d'entendre tous nos soupirs. Tu les connais avant même qu'ils soient exprimés. Merci Seigneur d'être un Dieu compatissant, bienveillant, rempli d'amour, les bras toujours grands ouverts pour nous accueillir. Merci Jésus. Tu es un magnifique Dieu. C'est en ton nom que nous prions. Amen.